Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Et aujourd'hui, tels des promeneurs sombres dans la nuit solitaire, nous nous intéressons à une exposition exceptionnelle qui sait à la fois être poétique et historique. Peindre la nuit au centre Pompidou-Metz et qui se tient jusqu'au 15 avril. Entrer dans la nuit, tournoyer comme un papillon autour d'une lampe ou s'égarer errant dans notre propre labyrinthe, la nuit est toujours, dit le commissaire, un commencement et non une fin. Que celle-ci nous inspire une rêverie cosmique, que nous allions puiser des remords dans la fête servile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, la nuit des assassins, des voluptés interdites ou des rêveries métaphysiques, est un thème attirant pour les artistes, car le moment où l'obscur confisque une partie de la vision des voyants, justement, elle, s'inaugure. Et pour en parler, je reçois Alain Cabantou. Vous êtes professeur, spécialiste d'histoire sociale et culturelle, auteur d'une très fameuse histoire de la nuit au XVIIe et XVIIIe siècle, mais c'était il y a quelques années déjà, non ?
2009, oui.
Sorti en 2009, voilà, ça fait 9 ans, c'est pas si vieux que ça. Hein, et vous avez montré comment la ville invente la nuit à cette époque, ou un type de nuit qui annonce un peu les changements qui auront lieu au XIXe siècle, dont l'exposition parle un petit peu plus précisément d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous êtes en train de préparer d'autres livres sur d'autres sujets. Vous avez fait un livre sur, je crois qu'il est sorti déjà, sur les nuits historiques. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Oui, on s'est demandé si les nuits historiques existaient.
Qu'est-ce que c'est une nuit historique ?
Ben justement, on ne sait pas. On a un certain nombre de nuits dans l'histoire. On parle de la nuit de la Saint-Barthélemy, on parle de la nuit de Cristal, on parle de la nuit de Varennes. Mais est-ce que vraiment...
Ce n'est pas des bons souvenirs en général.
Non, en général, non. Mais on se demande, la question c'était de savoir si c'était la nuit qui construisait cet événement historique ou si cet événement pouvait exister en dehors de la nuit.
Voilà. Est-ce que ça aurait pu être diurne ? Est-ce que...
Mais on ne peut pas refaire l'histoire.
On ne peut pas refaire l'histoire. Et on a la chance d'avoir avec nous Jean-Marie Gallet, qui est le commissaire de cette exposition Peindre la nuit qui se trouve à Metz. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Alors vous êtes responsable de la programmation au Centre Pompidou-Metz. Vous avez commencé avec quelqu'un que nous aimons beaucoup ici, Bernard Blisten, qui est aujourd'hui directeur du Musée d'Art Moderne, du Musée National d'Art Moderne. Mais à cette époque-là, il était directeur du quoi d'ailleurs ?
Du département du développement culturel.
Du DDC au Centre Pompidou. Et puis vous avez été commissaire indépendant et vous avez rejoint la directrice du Centre Pompidou-Metz, Emma Lavigne, vers laquelle va évidemment nos pensées. Vous êtes en train de préparer une nouvelle exposition, Liu Fan, qui aura lieu. Liu Fan, ce grand artiste que vous avez peut-être vu à Versailles, quelques-uns d'entre vous, chers auditeurs, il y a 2 ans, et qui est une des très belles figures de l'art asiatique. Et c'est un Coréen qui a beaucoup travaillé au Japon également, et qu'on ne le sait pas, qui a beaucoup vécu en France et qui est un des grands artiste de la scène française, finalement, d'une certaine façon. Vous préparez une autre exposition sur la notion de folklore dans l'art moderne et contemporain. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais en tout cas, vous êtes lancé dans cette exposition sur la nuit, semble-t-il, avec passion, et vous en avez tiré quelque chose qui est très singulier. Qu'est-ce que vous pensez de la phrase d'André Malraux ? Je pense qu'il a dit ça à propos de Goya. La nuit n'est pas seulement le noir, elle est aussi la nuit.
Magnifique.
Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis ?
Ça veut dire que la nuit est quelque chose qui agit sur nous. C'est pas, on peut pas être simplement passif dans la nuit. En tout cas, l'exposition, elle prend ce parti pris d'aller explorer ce qui se passe quand on choisit de ne pas dormir. Alors parfois, on ne le choisit pas. C'est le cas des insomniaques, c'est autre chose, mais c'est aussi présent dans l'exposition. Mais donc, c'est que la nuit, c'est pas simplement le noir, c'est pas simplement quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui va nous transformer, qui va transformer le corps, la perception, la manière dont on va agir, percevoir.
Alors écoutons ce que dit Alexandre Dumas dans Les Mohicans, ça c'est un texte de 1854, sur la nuit, et on verra que c'est plutôt une nuit fantasmatique qui évidemment nous attire, parce qu'il y a une sensualité dangereuse dans la nuit.
Il n'y a d'éveillé à cette heure que le riche qui s'amuse, que le pauvre qui souffre, l'agonisant qui râle et la sœur de charité qui veille à son chevet. Ailleurs tu trouveras le joueur qui se ruine, le poète qui demande l'inspiration aux étoiles, le voleur qui crochette les serrures, l'assassin qui attend sa victime, la police qui guette assassins et voleurs, et les paysans de la banlieue qui apportent au marché leurs légumes et leurs fruits. Alexandre Dumas, Les Mohicans de Paris, 1854.
Alain Cabantou, nous venons d'entendre au fond un inventaire de clichés sur la nuit, d'une certaine façon. On peut dire que ce sont les clichés de la nuit, mais ce sont les clichés de la nuit du 19e siècle. Avant de se lancer dans la visite de l'exposition, je serais curieux de savoir si la nuit a toujours été cette nuit-là.
Non, pas du tout. Non. D'abord, pour rebondir sur la phrase de Malraux, « la nuit est la nuit », je suis sensible au fait que la nuit a une autonomie par rapport au jour. La nuit n'est pas l'inverse du jour. La nuit est un temps particulier qui est le propre de chacun, mais aussi pour les périodes que je connais un petit peu, le propre des communautés ou des villes ou des voire même des villages. Et donc du coup, on se rend compte que l'ensemble des clichés qui traînent sur la nuit et que Dumas développe, et il développe beaucoup la question de la criminalité nocturne.
Bien sûr, c'est romanesque ça.
Voilà, c'est l'image qu'on, enfin je dirais qu'on se trimballe tout le temps, pardonnez-moi l'expression, mais moi-même d'ailleurs quand j'ai commencé ce travail, j'ai commencé à travailler dans les archives criminelles parce que je pensais que c'était l'essentiel du, et en fait non.
Statistiquement, il y a plus de crimes la nuit ou
non
pas?
Bien sûr, le jour.
Ah oui.
Mais bien sûr. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on est avec cette image de la peur de la nuit et de la peur dans la nuit. Mais ça, c'est anthropologique, c'est en nous. Et on se rend compte que, on en parlera peut-être tout à l'heure, l'apport de la lumière qui apparaît comme un élément de sécurité, va au contraire accentuer la criminalité dans les villes.
C'est absurde, je pensais le contraire, puisque la lumière révèle le coupable.
Mais du coup, les voleurs savent qui ils vont attaquer.
Vous voulez dire, ça révèle aussi la victime.
Mais on se rend compte de
la
ça.
Proie.
Se rend compte de ça quand on fait une cartographie, par exemple, de la criminalité, comme on peut le faire pour Paris au début du XVIIIe siècle. La bande à cartouches, par exemple, attaque les gens là où il y a de la lumière. C'est-à-dire que c'est l'inverse de ce qu'on croyait être. Hein. Enfin, la nuit va disparaître, dit Madame de Sévigné à un moment, parce qu'il y a trois lanternes à Paris. Mais en fait, la nuit va disparaître. Ça veut dire la criminalité va disparaître, l'insécurité va disparaître. Mais en fait, c'est l'inverse qui se passe.
Alors, on est le moment où la lumière apparaît, on parlera plus longtemps de la lumière tout à l'heure, parce qu'évidemment, pour les peintres, ça a une importance considérable. C'est vers 1840. C'est les premiers becs de gaz, à peu près.
Il y a une volonté politique des grandes villes européennes, Londres, Paris, Amsterdam, une volonté politique cette fois-ci, hein, de faire disparaître la nuit à partir des années 1660-1670.
Ah bon, bien avant.
Bien avant.
Ah oui, d'accord, je pensais que c'était bien beaucoup avant. Plus tard.
Et psychologiquement, ça a été un choc, alors que techniquement, on ne voyait pas grand-chose. Parce que, évidemment, c'était
des lumignons.
C'était des lumignons, c'était des chandelles. Ou c'était
du gaz ou de l'huile, de baleine.
Le gaz arrivera beaucoup plus tard, au début du 19e siècle. Donc, mais psychologiquement, c'est un choc. Quoi. Et c'est un choc qui va distinguer la ville de la campagne, qui reste sombre, qui reste noire. Et par conséquent, on a l'impression que la civilisation, c'est la lumière. Pourquoi on appelle aussi ça le siècle des Lumières au XVIIIe siècle, bon, sans faire de mauvais jeu de mots, bien entendu. Mais ça a un rôle important.
Alors Jean-Marie Gallet, les autres criminels qui vous intéressent plus, ce sont les artistes. et eux vont désirer ce sujet. On voit des nuits beaucoup assez tôt. Je pense par exemple à Frédéric, mais on aurait pu remonter plus loin. Dans votre exposition, d'ailleurs, il y a des œuvres du XVIIIe siècle également.
XVIIe. Une exception.
Oui, c'est une exception, mais vous pouvez la citer.
C'est une exception. Alors, c'est un peintre qui a... À l'époque des surréalistes,
parce qu'il est médecin.
Alors, au moment où les surréalistes vont s'intéresser à lui parce qu'il peint la nuit, on le connaît sous le nom de Montsou Desiderio. Et les historiens de l'art, plus tard, découvriront que sous ce nom se cachent en fait deux peintres, tous les deux originaires de Metz, qui vont peindre à Naples dans les premières décennies du XVIIe siècle. Et l'un d'entre eux s'appelle François de Nommé. Et François de Nommé, dont on a plusieurs tableaux à Metz conservés au musée de la Cour d'Or. Et on a un prêt magnifique qui s'appelle, c'est une vision extraordinaire du Caire. Mais le Caire qui ressemble à une ville antique, plutôt comme on pourrait en trouver en Italie ou en Grèce, sur un fond très très sombre et dans une vision très décadente, puisque le peintre a écrit Le Caire, la Babylone africaine. Et on y voit une scène de très mystérieuse, de désolation, un peu comme une grande ville en feu.
Et donc c'est une des premières œuvres qui, au fond, est un engagement du surréalisme. On en parlera tout à l'heure. Le surréalisme est extraordinairement fasciné. Et d'ailleurs, dans le Minotaure, il y a dans l'exposition une double page ouverte de cette fameuse revue d'André Breton et qui parle de cette fascination pour la nuit. Mais peut-être auparavant, la nuit, vous l'avez... Je pense que tous nos auditeurs ont en tête une nuit de Van Gogh, une nuit étoilée de Van Gogh, je suppose. Et d'où vient cette attirance, cette appétence pour la nuit qui est plutôt la limite de la possibilité de l'image?
C'est exactement la question que j'avais en tête au moment de faire cette exposition. Je pense que d'ailleurs, elle est toujours présente dans l'esprit des visiteurs et devant chaque tableau, on se la pose. Pourquoi peindre la nuit? Comment peindre la nuit aussi? Il y a très peu d'artistes, notamment au XXe siècle, qui ne se sont jamais intéressés à la nuit. Alors Matisse, par exemple, n'a presque pas peint la nuit. Alors, on va trouver des allusions, mais en revanche...
La fenêtre à Collioure, c'est
alors,
presque...
La fenêtre à Collioure, c'est la nuit en plein jour, c'est le soleil qui noircit. Ça, c'est effectivement le tableau de Matisse auquel on peut penser par rapport à la nuit, mais sinon, on va presque pas trouver autre chose, alors que il y a très peu d'artistes qui ne s'y sont pas intéressés. Alors, pourquoi ? Énormément de raisons possibles, mais je pense qu'effectivement, un des aspects principaux, c'est que la nuit permet de se détacher de cette hégémonie de la vision. Et donc, elle offre un espace de liberté fantastique. Ça, on ne va pas aller jusqu'à tracer un trait un peu trop rapide qui dirait que la nuit amène à l'abstraction, mais il y a de ça dans l'exposition.
Sûrement, vous le tracez, puisque vous évoquez même dans le catalogue la fameuse la scène primordiale, si j'ose dire, de l'abstraction, qui est la découverte par Kandinsky d'un tableau quasiment en pleine nuit, dans la nuit de son atelier en tout cas.
Exactement, et c'est
vous
assez intéressant.
Vous pouvez le raconter ?
Alors c'est Kandinsky qui raconte dans ses mémoires, regard sur le passé, qu'il rentre un soir dans son atelier. Alors à l'époque, il est en Bavière, il peint des paysages, plutôt des paysages bucoliques très colorés. Et puis il rentre à l'atelier, il écrit au crépuscule. Une toile lui semble totalement étrangère, inconnue, comme si ce n'était pas lui qui l'avait peinte, et ça le trouble vraiment. Et il se rend compte après quelques minutes qu'il s'agit d'un de ses tableaux.
Mais il la trouve splendide, surtout, ce qui est formidable, c'est qu'il ne la reconnaissant pas, il la trouve splendide.
Il la trouve incroyable et il se rend compte que c'est l'un de ses tableaux retournés et dont la vision crépusculaire lui a fait penser à quelque chose enfin, l'a amené vers une image inconnue. Et il dira que c'est ce qui l'a mené à se détacher de la vision et à créer l'abstraction.
Donc il a découvert là que l'œuvre peut se passer de l'objet.
Absolument, absolument. Et il y a quelque chose quand même d'intéressant parce que c'est un épisode légendaire aussi. Personne ne nous dira s'il l'a réellement vécu la nuit. Or, c'est un quelque chose qu'on retrouve chez d'autres artistes à plusieurs époques. D'ailleurs, plus récemment, Soulages dit que la découverte, la révélation de l'outre noir s'est faite en pleine nuit alors qu'il n'arrive plus à peindre. Il est bloqué quelque part et dans le manque de sommeil, l'insomnie, il se réveille, il a cette révélation de l'outre noir. Miro également dit que c'est dans la nuit qu'il commence à voir les dessins sur le plafond de sa chambre, etc. Très souvent, on trouve cette idée que la nuit, une révélation a lieu. Et je pense qu'il faut se poser la même question que pour les nuits historiques. Cette nuit de la révélation existe-t-elle vraiment? Est-ce qu'on n'est pas dans l'imaginaire, la légende? Il y a quelque chose là d'assez passionnant, surtout que ces récits de révélations nocturnes se multiplient vraiment.
Est-ce que vous pensez que la nuit est propice aux révélations, cher professeur ?
Alors, ce type de révélation, évidemment, ça sera pas, ne concernera pas les peintres, mais effectivement, il y a, par exemple, dans la culture biblique, énormément de révélations qui apparaissent la nuit, et notamment, on parle de songes. Hein, le terme de rêve est quelque chose de beaucoup plus récent dans le vocabulaire. Ce sont des songes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIe siècle, en particulier chez les théologiens protestants, on estime qu'on n'a plus à avoir de songes. Dieu a déjà parlé. Et par conséquent, il n'y a plus de songe possible.
Donc on décide d'interdire le songe.
Ouais, un petit peu.
C'est incroyable.
Pourquoi on fait ça ? Parce qu'il y avait une propension culturelle à vouloir interpréter ce que nous appelons les rêves. Il y avait toujours des clés des songes, c'est-à-dire des petits ouvrages qu'on pensait dater de l'époque grecque, voire même de l'époque égyptienne, enfin très ancien, et qui étaient, je dirais, les traductions possibles, avec tout ce que ça pouvait comporter. Bon, et à partir d'un certain moment, on estime que les songes, qui sont les vrais songes, c'est-à-dire une espèce de une traduction du langage de Dieu aux hommes, ne peut plus exister puisque
tout a été
dit.
Est-ce que ce n'est pas plutôt une volonté d'une église d'évacuer un reste pré-chrétien, d'une certaine façon, une sorte de magie inacceptable?
Non, je ne crois pas, parce que les références dans le Premier Testament sont, et même dans un petit peu dans le Second Testament, par exemple le songe de Joseph dans Matthieu, je crois pas que ça soit quelque chose de cet ordre-là. C'est possible, hein, vous avez peut-être raison, mais je crois que c'est plutôt de dire désormais les songes n'ont plus à être interprétés en tant que tels. Alors ça n'empêchera pas qu'on continuera à acheter ces petits livres et à lire fiévreusement ce que ça pouvait signifier. D'ailleurs, quand on lit les journaux personnels d'un certain nombre de gens qui racontent leur songe, c'est quelque chose de très prégnant. C'est-à-dire qu'ils ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et notamment chez les protestants anglais qui écrivent beaucoup plus que les autres en Europe, leur propre songe, ils s'interrogent toujours, notamment dans les périodes troublées, savoir qu'est-ce que ça signifie ? Voilà.
Alors, dans cette culture protestante, ou en tout cas dans cette sensibilité, il y a un artiste auquel on ne peut pas ne pas penser, il est présent dans le catalogue, évidemment, c'est Friedrich, avec une relation à la nature très particulière, et qui est un espace à la fois de révélation, mais que la nuit semble enrichir de révélations nouvelles. Dans le déclin du soleil, il y a, semble-t-il, une autre type de révélation, peut-être le déclin d'un monde. Qu'en pensez-vous, Jean-Marie Gallet ?
Oui, le déclin d'un monde, certainement. Dans les visions romantiques, la nuit est primordiale et il y a une scène très récurrente dans la peinture romantique et notamment la peinture de Friedrich, c'est les hommes contemplant l'inconnu, donc un homme, deux, trois, dos au spectateur, mais face au ciel étoilé, à la lune, cherchant justement à percer, à sonder un peu les mystères de cet inconnu. Et ce qui est assez passionnant, c'est de voir comment au XXe siècle, cette vision du romantisme du XIXe siècle va se retourner. Et il y a dans l'exposition un tableau assez intéressant d'un peintre allemand, qui est Georg Scholz, qui peint dans les années 20 un tableau qui est, pour moi, c'est l'un des tableaux qui m'a depuis longtemps marqué et peut-être l'un des points de départ de cette exposition, c'est pas le seul.
Vous pouvez nous le décrire, faites-le voilà, nous
c'est
aimer.
C'est un tableau qui s'appelle le Veilleur de nuit. Le titre exact en allemand est un peu plus long, mais c'est un Veilleur de nuit dans une guérite de chemin de fer. Le tableau est peint avec une facture extrêmement classique, qu'on pourrait comparer presque à Friedrich d'une certaine manière, au sens vraiment de technique.
Parce qu'on est dans la nouvelle objectivité, en fait. Hein.
Exactement.
C'est cette période très particulière du refroidissement de la surface de la peinture au début des années 20.
Exactement, on est au début des années 20 en Allemagne. Et ce personnage qui est le veilleur de nuit, qui était au sens romantique aussi, c'est un historien de la littérature, Alain Montandon, qui en parle très bien dans un ouvrage, Les yeux de la nuit. C'est aussi le veilleur qui prie pour les âmes, du haut d'une tour dans le village. Et là, ce veilleur de nuit romantique n'est plus du tout celui-là, il s'est retourné vers nous. Et le personnage au centre du tableau de Scholz ne regarde plus derrière lui. D'ailleurs, il n'y a plus rien à voir. Il y a a pas d'étoiles, c'est un ciel totalement opaque, lisse, et les signaux qu'on voit, il y a quand même trois petits points qui brillent, ce sont des signaux électriques du chemin de fer. Donc il y a vraiment tout ce que l'homme a apporté, tout ce que l'homme aussi a transformé de cette nuit au XXe siècle, et ce renversement, on a vraiment l'impression qu'il vient de se retourner vers nous, qu'il a arrêté de contempler, il n'y a plus rien à contempler, il a la tête, il se prend la tête avec les mains dans une grande mélancolie. Et il y a là un renversement, d'ailleurs dans l'exposition, il est placé vraiment en transition entre un moment où on va explorer la ville, les habitants de la ville, et un moment beaucoup plus introspectif, puisque la nuit c'est aussi une nuit intérieure, un moment où on va peut-être être confronté à soi-même, à ses tourments, à ses obsessions.
Alain Cabantou, vous entendez cette substitution de la contemplation des lumières de la nuit dans la ville à la contemplation des lumières de la nuit dans le cosmos. Y a eu une transformation complète de la sensibilité à cause de la modification urbaine ?
Alors, je crois que la transformation de cette sensibilité probablement a des racines telles que vous les évoquez à l'instant, c'est-à-dire le rôle de la saisie de la ville qui veut transformer absolument la nuit en succès de la nuit du jour, en fait. C'est bien ça, que la nuit n'existe plus. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, on a dit, enfin, quand je dis « on », la doxa politique, la doxa des gouvernants, c'est-à-dire la nuit est faite pour dormir. Et dans le fameux dictionnaire de Furtière, qui est une mine pour les historiens, parce qu'il donne à la fois des définitions, mais il commence très souvent par des exemples. Et à l'entrée nuit, l'occurrence nuit, deux points, la nuit est faite pour dormir. Il ne définit pas la nuit, il la définit d'une autre manière par rapport à nous. Et à partir du moment où on avance ceci, toute activité qui a lieu la nuit est forcément suspecte.
Oui.
Voilà. Et donc, c'est à partir de cet enracinement urbain et politique que, effectivement, il va y avoir une forme de lente désacralisation de la nuit, parce que c'est une désacralisation que vous évoquez à l'instant. Ce qui est quand même intéressant, c'est que ça va être lent, parce que la littérature, plus que la peinture, d'ailleurs peut-être au XVIIIe siècle, mais là je m'avance un peu, la littérature va accaparer au XVIIIe siècle la nuit d'une autre manière. On va avoir par exemple un genre qui va se développer considérablement, d'abord en Angleterre, une fois encore en Angleterre, c'est par exemple la poésie des tombeaux.
Oui.
Au milieu, dans les années 1720-1730, avec des. Souvent, ce sont des pasteurs, comme Blair, par exemple, qui vont être à
Jung.
Et Jung, par exemple, aussi. Et puis, on va avoir ensuite le roman gothique. Le roman gothique à la fin du XVIIIe siècle. Et on voit, par exemple, les illustrations qui ont lieu, qui accompagne souvent les éditions de ces ouvrages, où la nuit est complètement noire. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est ce sont les culs de Basse-Faux, ce sont les ruines qui sont éclairées par la lune et la nuit. Mais voilà, donc ce n'est que vraiment très progressivement, probablement au cours du 19e siècle, qui va accentuer la technique de la lumière, le contrôle policier aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, que cette désacralisation va commencer à exister.
Grâce à la tyrannie du jour, qui est, dans ce que vous dites, j'entends quand même que c'est une volonté effectivement très politique.
Ah, tout à fait.
Et on n'a plus le droit de songer, on se méfie de l'imaginaire et on se méfie de ce que la nuit permet, au fond.
Oui. Hein. Sauf à ceci près, c'est que comme la nuit, quand même, est à la fois un élément probablement de vie collective, mais aussi de vie complètement individuel, ça, le pouvoir ne peut pas le contrôler.
Alors, avant de repartir dans l'exposition, je voudrais, et de repartir vers le 19e et le 20e siècle, en tout cas la fin du 19e, je voudrais vous faire écouter un texte de Novalis. On est vers 1833, donc on n'est pas très loin de Friedrich, on est dans la même sensibilité du romantisme, et on se rend compte comment il y a une expansion, j'ai l'impression, de la totalité de la sensibilité. Et peut-être que c'est cette expansion sensible, quasiment comme si la peau n'avait plus de limite, ce qui fait qu'il y a un intérêt de la part des artistes pour cette nouvelle monde de perception.
Quel mortel, quel être doué de la faculté de sentir, ne préfère pas au jour fatigant la douce lumière de la nuit avec ses couleurs, ses rayons, ses vagues flottantes qui se répandent partout. Oh, comme alors l'âme, avec ce qu'elle a de plus intime, respire cette lumière du monde gigantesque des astres. La pierre aussi la respire. La pierre qui étincelle. Et puis la plante qui ouvre ses pores. Et puis l'animal sauvage. Mais avant tout l'étranger, avec ses regards ardents, sa démarche incertaine et ses lèvres tremblantes. Car c'est elle qui, semblable à un roi de la nature terrestre, opère d'innombrables métamorphoses, noue et dénoue maintes alliances et entoure de son image céleste les choses d'ici-bas. Et c'est sa présence qui nous révèle les merveilles de l'empire du monde. Novalis, hymne à la nuit, 1833.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et nous sommes en train de parler de l'exposition qui se déroule en ce moment au Centre Pompidou, Metz. Peindre la nuit, qui est une exposition magnifique, et j'ai la chance d'être avec Jean-Marie Gallet, son commissaire, et Alain Cabantou, fameux historien de la nuit, justement, entre autres, évidemment. Nous étions en train de parler de cette sensibilité romantique, n'est-ce pas, que Novalis exprime, dans laquelle on a l'impression que chaque objet devient un fantôme et prend un rayonnement, curieusement, une expansion sensationnelle. Et dans l'exposition, il y a un tableau, mais très inattendu, de Mondrian. Alors Mondrian, on ne s'attend pas exactement à ça. C'est un tableau qu'il faut que vous nous décriviez.
C'est un tableau de Mondrian qui est un Mondrian de jeunesse. On est entre 1906 et 1908. Donc pas du tout, Mondrian n'a pas du tout encore élaboré son vocabulaire abstrait qu'on connaît plus tard. Hein, il est en train d'observer un arbre. Dans un paysage extrêmement sombre, avec un clair de lune. La pleine lune est le seul élément parfaitement, au contour parfaitement dessiné. C'est un cercle quasiment parfait, avec l'imprécision du pinceau, mais c'est un cercle entier en haut du tableau. Et le reste du tableau perd totalement le regardeur. On ne sait pas ce qu'on est en train de regarder et en fait on se rend compte, il faut presque comme si on était dans la nuit nous-mêmes, un peu de temps d'adaptation, que l'œil s'adapte à cette obscurité. Le tableau est extrêmement sombre et ça a été un vrai problème d'ailleurs pour le reproduire. C'est un tableau qui résiste à la reproduction et ça c'est capital par rapport à la nuit. Je pense que c'est un des sujets aussi très, très important de la peinture et de la nuit, cette idée d'échapper à la reproduction. Donc Mondrian essaye de dompter cette forme qui est devant lui, cet arbre qui devient finalement une sorte de grand cercle au contour très flou, posé sur un cylindre. Donc on sent déjà une simplification. La nuit finalement, pour le regard, puisque la vision est affaiblie, la nuit apporte déjà, et Mondrian perçoit tout le potentiel de cette vision transformée, cette vision, cette perception altérée. Elle simplifie les choses. La nature est presque déjà abstraite. L'arbre.
Mais ce qui est curieux dans ce tableau, peut-être que je l'ai mal vu, mais je vois bien cette sphère qui est quand même pas si précise. C'est pas une sphère très, elle est légèrement, le contour se noie avec son environnement. Complètement. Et la surface est assez croûteuse. Un petit peu comme si la perception des formes qui devient dufteuse, en quelque sorte, existait également dans la matière, qui elle aussi perd la distance exacte et devient plus approximative. En fait, on est dans une nature, Alain Cabantou, c'est une vision de la nature, on est en Hollande quand il fait ce tableau. La nature nocturne, parce qu'on a parlé ensemble tout de suite de la nuit urbaine, mais la nuit naturelle, est-ce que vous l'avez ressenti, évoqué dans vos livres également? Elle est très différente, c'est pas du tout la même.
Alors, je l'ai évoqué parce que il y a notamment beaucoup de philosophes au XVIIe, plus encore au XVIIIe siècle, qui mettent en garde les promeneurs, quand il y en a, ou n'importe quelle personne, contre la nuit qui trompe. En fait, la nuit trompe parce que la nature est transformée et Buffon dit on prend un arbre pour un fantôme et quand on s'en approche, évidemment, ce n'est qu'un arbre. Et du coup, cette nuit est versée, je dirais, du côté de ce qu'il ne faut pas voir, de ce qu'il faut entendre peut-être, parce que les sens sont complètement inversés. déjà au XVIIe siècle et même avant au XVIe siècle, on insiste de plus en plus sur la vue, sur la vision comme le sens essentiel. Et la nuit, ça ne marche pas, quoi. Notamment quand on est en pleine campagne, il faut bien voir que en pleine campagne, quand il n'y a pas la pleine lune, on n'y voit rien. On y voit goutte. Et Rousseau est à peu près le seul des auteurs que j'ai pu lire, mais je n'ai pas tout lu, qui dit dans les rêveries du promeneur solitaire, mais moi je marchais beaucoup, je faisais des voyages à pied et une nuit du côté de Lyon, eh bien j'ai dormi à la Belle Étoile et c'était absolument extraordinaire. Mais en même temps, dans les Confessions, il raconte qu'il était chez un pasteur et il se vantait de ne pas avoir peur de la nuit. Et le pasteur lui dit, va me chercher la Bible qui est dans le temple là. De nuit. Et Rousseau dit, je n'ai pas pu y aller.
Ah oui, c'est assez extraordinaire. Donc,
c'est
cette
un tout petit peu. Je dévie un petit peu par rapport à votre question.
Mais parce que la nuit à la campagne est une nuit habitée. Elle est habitée de sons, de cris, de cris d'animaux.
Oui.
Et comme on perd les yeux, on augmente notre animalité, probablement. C'est-à-dire les autres sens doivent prendre possession de nous.
Mais ils sont trompeurs eux aussi. Parce qu'on transforme les sens. Et. Plusieurs voyageurs écrivent en disant j'avais entendu un bruit, par exemple au XVIIe siècle, j'ai cru que c'était une réunion de sorcières.
Oui, parce qu'il y avait.
Par exemple, hein,
les sabbats.
Oui, les sabbats ont lieu forcément de nuit, à condition qu'ils existent.
Ah, vous n'y croyez pas ?
Ah, pas du tout, non.
Et vous ?
Ben, j'y crois.
Enfin, historiquement, je n'y crois pas, voilà.
Écoutons un texte de Guy de Maupassant sur la nuit, justement.
J'aime la nuit avec passion. Je l'aime comme on aime son pays ou sa maîtresse, d'un amour instinctif, profond, invincible. Je l'aime avec tous mes sens, avec mes yeux qui la voient, avec mon odorat qui la respire, avec mes oreilles qui en écoutent le silence, avec toute ma chair que les ténèbres caressent. Les alouettes chantent dans le soleil, dans l'air bleu, dans l'air chaud, dans l'air léger des matinées claires. Le hibou fuit dans la nuit, tache noire qui passe à travers l'espace noir, et réjoui, grisé par la noire immensité, il pousse son cri vibrant et sinistre. Je la regarde s'épaissir, la grande ombre douce tombée du ciel. Elle noie la ville comme une onde insaisissable et impénétrable. Elle cache, efface, détruit les couleurs, les formes, étreint les maisons, les êtres, les monuments de son imperceptible toucher. Alors j'ai envie de crier de plaisir comme les chouettes, de courir sur les toits comme les chats, et un impétueux, un invincible désir d'aimer s'allume dans mes veines. Je vais. Je marche, tantôt dans les faubourgs assombris, tantôt dans les bois voisins de Paris, où j'entends rôder mes sœurs les bêtes et mes frères les braconniers. Guy de Maupassant, 1887.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et nous parlons, vous l'avez compris, de la nuit à cause de l'exposition Peindre la nuit qui se trouve à Metz en ce moment. Et je suis avec son commissaire Jean-Marie Gallet. Jean-Marie, cette animalisation, il dit mes sœurs les bêtes, cette animalisation dans la nuit, dans l'exposition, est-ce qu'on la ressent ? Est-ce qu'il y a des artistes qui l'ont laissé ressentir ?
On la trouve, alors je vais citer un cas qui est particulièrement intéressant, c'est le cas de Lee Krasner. Lee Krasner est donc une peintre abstraite américaine.
Quand vous avez commencé par Lee, je me pensais que c'était lycanthrope, je m'attendais à un loup-garou. C'était Lee Krasner donc.
C'est Lee Krasner. Lee Krasner est la femme de Jackson Pollock et est évidemment extrêmement déstabilisée, choquée, profondément bouleversée par la mort accidentelle de ce dernier à la fin des années 50. Et elle peignait auparavant des choses extrêmement colorées, très vives, très, une abstraction très chargée dans le style de l'école de New York. Et puis, suite à la mort de Pollock, elle est vraiment victime d'insomnie profonde. Elle n'arrive plus à travailler, elle n'arrive plus à vivre, quoi. Et c'est son plusieurs amis, puis son psychanalyste, qui lui dit « Écoute, ce que tu sais faire, c'est peindre. Si tu n'arrives pas à dormir, essaye de peindre la nuit à la place d'essayer de dormir et de ne pas y parvenir. » Et Lee Krasner, et là c'est fascinant, devient une autre peintre la nuit que le jour. Et ces peintures de nuit, on a la chance d'en avoir une dans l'exposition qui est prêtée par le Metropolitan de New York. Ces peintures de nuit, ça, pendant 5 ans à peu près, la nuit, elle va peindre autre chose que le jour. Et ces peintures sont des peintures de guérison presque. C'est très cathartique et on voit surgir, alors que c'est une peinture purement abstraite, hein, on voit surgir des yeux, des formes animales, dans une matière très, une palette très, très, très proche des peintures rupestres, par exemple. C'est aussi le moment où tous ces peintres sont fascinés par la découverte, tout d'un coup, de la préhistoire, des grottes,
Lascaux. En 44, on découvre Lascaux, ça a une influence considérable, et c'est la découverte que la naissance de l'art commence dans la nuit.
Absolument. Et Bataille écrira à partir de ce moment-là que le miracle de Lascaux dépasse le miracle grec. Donc l'obscurité est au fond plus importante que la clarté, alors qu'on a toujours placé la clarté en tête des vertus pour l'art. Et voilà, dans le cas de Lee Krasner, c'est une peinture qui est clairement une peinture qui fait ressortir quelque chose de très profond, de très enfoui, et dans lequel on ne peut s'empêcher d'y voir une animalité.
Ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une métamorphose de soi rendue possible par la nuit. Et au fond, je disais en plaisantant, je parlais de la lycanthropie, où on parlait des sabbats tout à l'heure, mais en fait, est-on le même le jour et la nuit? Qu'est-ce que vous en pensez, professeur?
J'allais dire ça dépend qui, mais je ne peux vous parler que de ce que j'ai trouvé, hein. Donc de collectif en définitive, sauf évidemment à me référer aux gens qui écrivent, mais en général ils n'écrivent pas la nuit, ils écrivent le jour et sans.
Comment ça se fait quand même que vous disiez tout à l'heure que les crimes avaient lieu plus le jour et ça, ce qui était tout à fait le contraire de ce que nous pensons couramment, mais en même temps, par exemple, le monde des plaisirs semble être la nuit est propice à cela au moins.
Oui.
Les plaisirs interdits, illicites, les bordels, etc. Tout ça, c'est.
Oui, enfin les bordels marchaient aussi le jour, je vous rassure. Hein.
Oui.
Oui. Donc au moins au XVIIe ou XVIIIe siècle, mais ça confirme ce que vous disiez à l'instant, confirme ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'éclairage. À partir du moment où il y a davantage d'éclairage, les gens sortent davantage la nuit. Et donc, il y a davantage de distractions. Il y a, par exemple, on installe des Vauxhall, donc des espèces de grandes foires qui marchent jusqu'à minuit, 1h du matin, ce qui était impensable au XVIIe siècle. Ça, on est au XVIIIe siècle. Par exemple, les billards, les jeux de billards sont ouverts jusqu'à minuit, 1h. On autorise les cabarets à ouvrir jusqu'à 11h du soir dans un certain nombre de villes, alors qu'auparavant, à 9h, il fallait terminer. Par exemple, en Italie, les représentations de l'opéra ou du théâtre se prolongent très tard dans la nuit. Donc il y a progressivement, grâce à ce développement urbain, si je puis dire, des Lumières, un très grand nombre d'activités qui, désormais, se transforme en fait. Et se déplace. Ce qui fait, par exemple, qu'on se rend compte que les gens dorment moins. Quand on peut calculer, ce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un historien allemand qui a travaillé sur l'Angleterre, il montre que à partir des procès que l'on a, on demande aux gens à quelle heure ils sont couchés, etc. Et il a pu calculer qu'entre le milieu du XVIIIe siècle et les années 1830, les gens dorment 1 heure de moins. Pourquoi? Pour certains, parce qu'il y a le travail. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la nuit, c'est pas simplement les plaisirs, c'est pas simplement les artistes, c'est aussi de plus en plus le travail de nuit. Donc le travail va réduire considérablement le temps de sommeil, mais pas seulement le travail, aussi un certain nombre de distractions. Et donc plus il y a de gens dehors la nuit, et plus il y a, je dirais, de victimes potentielles pour la criminalité.
La criminalité ou quelques excès, parmi lesquels certains ont été magnifiquement peints par Chabot, qui est une des figures magnifiques de l'histoire du fauvisme, peu connue, souvent réduite à sa période provençale, si je puis dire, et que, dont vous avez rassemblé un très très beau, très très belle série d'œuvres de cette période-là. Vous pouvez nous parler un peu de Chabot et de ce qui vous a attiré dans ces tableaux?
Alors, Chabot est en fait, dans le grand secret, le peintre des nuits parisiennes entre 1906, 1907 et 1911.
Pourquoi dans le grand secret?
Dans le grand secret parce qu'en fait, il ne montrera ses peintures qu'à partir d'une rétrospective plutôt tardive en 1951. Personne ne les a vues avant. Il les gardait cachées. Il n'osait pas les montrer. Ou alors il y a plein d'hypothèses d'historiens de l'art sur les raisons. Est-ce que par rapport à sa famille, peut-être plutôt protestante, est-ce que par rapport à sa clientèle, qui ne tolérerait pas, et n'achèterait plus, ne soutiendrait plus, sachant qu'il côtoie le milieu noctambule parisien de ces années. Est-ce aussi par manque de confiance en soi? Bon, toujours est-il qu'il ne les montre pas, ces peintures. Or, on découvre là un peintre avec une manière très radicale, des contrastes extrêmement poussés, des effets lumineux qui finalement traduisent la sensation du corps dans la nuit. Et ça, c'est assez capital. On va se retrouver devant, par exemple, alors c'est très lié aussi à l'électricité et à toutes ces enseignes, ces ampoules, ces néons. Par exemple, le signe hôtel, évidemment lié à la prostitution, le signe hôtel revient énormément chez Chabot. Un de ses tableaux les plus fameux s'appelle Hôtel, Hôtel. Et cette répétition, cet écho dans la nuit, il le traduit presque comme il ferait un collage en mettant côte à côte plusieurs fois le mot hôtel. Et finalement, on se retrouve dans ces tableaux, soit face à des portraits très crus de belles de nuit, très radicaux, aussi, soit dans cet environnement de néons, d'ampoules, de tentations qui clignotent dans tous les sens, et il arrive vraiment à nous mettre au cœur de cette rue où tout s'illumine. C'est quelqu'un qui va presque devancer l'esthétique des expressionnistes allemands, des futuristes italiens, bien avant eux et dans le secret, sans que personne ne le sache.
C'est des tableaux extraordinaires. Certains, justement, le tableau hôtel dont vous parlez, il y a des grandes courbes comme ça de néon. On pense presque à les tableaux de Delaunay. C'est assez extraordinaire. Et puis, il y a des yeux qui battent dans la nuit, qui font la moitié du tableau, quasiment. Des silhouettes de prostituées au loin. Et tout ça, c'est sur des fonds bleus, noirs, d'un violet très foncé. Cette série est d'une beauté très très extraordinaire. Vous voulez?
Il y a un rapport d'échelle, effectivement, le rapport des plans aussi dans ces tableaux qui est assez passionnant. Et là, la nuit et ce rapport à l'espace, c'est assez captivant. Il y a une phrase très belle, un récit très beau de Jean Paulhan, lorsqu'il écrit sur le cubisme. Il commence par raconter une anecdote personnelle. Il dit qu'un soir, il rentre tard, il promet, il jure qu'il n'était pas ivre. Simplement, il rentrait tard d'un dîner, il ne voulait pas réveiller sa femme déjà endormie. Et donc, il hésite un peu quelle stratégie adopter pour ne pas la réveiller. Il décide d'opter pour un coup de lumière. Donc, il arrive et à tâtons, il cherche l'interrupteur. Il fait un coup de lumière, une fraction de seconde. Puis, il avance dans le noir d'après la mémoire de ce flash qu'il vient d'avoir. Et là, il décrit cette scène d'une avancée à tâtons dans un espace à moitié connu, à moitié inconnu. Et c'est formidable. Il finit par dire « Il me vint une curieuse sensation, c'est que j'avais traversé l'espace d'un tableau moderne. » Et commence son texte sur le cubisme.
Extraordinaire, oui. Ça, c'est un véritable flash. Juste pour terminer sur Chabot, un des tableaux les plus étranges, les plus beaux aussi, je pense, avec celui dont vous parliez, Hôtel Hôtel, c'est celui dans lequel des inscriptions apparaissent, Magic City. Donc on comprend que la ville devient magique, le cinéma qui est un nouveau monde qui apparaît, une nouvelle technologie, puisqu'on est en 1908-1910 par là. Il y a le Louvre qui clignote à l'horizon avec l'importance de l'art, le Moulin Rouge avec les tentations, je suppose. Et là-dessous passent les fiacres comme un monde ancien qui traverse ce monde si nouveau dont parlera Apollinaire dans Zone, etc. C'est extraordinaire cet entrechoquement des mondes comme ça.
Oui, et ça, c'est effectivement la signature de Chabot, c'est vraiment ça, pour en tout cas toute une partie de ses tableaux de nuit. Il y a d'autres tableaux qui évoquent aussi, au contraire, une nuit très silencieuse, la nuit du voyeur finalement, puisque Chabot se met à distance, on entend presque les sons de la nuit dans des tableaux où on va voir simplement des façades éclairées et des silhouettes dans des rectangles jaunes qui sont des fenêtres éclairées, ce qui évidemment n'est pas sans évoquer Baudelaire qui disait qu'il n'y a rien de plus fécond, de plus ténébreux qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle, et c'est l'autre facette de Chabot effectivement.
Écoutons Baudelaire, extrait de Crépuscule du soir. Nous sommes en 1857.
Quels sont les infortunés que le soir ne calme pas et qui prennent, comme les hiboux, la venue de la nuit pour un signal de sabbat? Cette sinistre ululation nous arrive du noir hospice perché sur la montagne, et le soir, en fumant et en contemplant le repos de l'immense vallée hérissée de maisons dont chaque fenêtre dit « c'est ici la paix maintenant, c'est ici la joie de la famille », je puis, quand le vent souffle de là-haut, bercer ma pensée étonnée à cette imitation des harmonies de l'enfer. Ô nuit, ô rafraîchissante ténèbres, vous êtes pour moi le signal d'une fête intérieure, vous êtes la délivrance d'une angoisse. Dans la solitude des plaines, dans les labyrinthes pierreux d'une capitale, scintillement des étoiles, explosion des lanternes, vous êtes le feu d'artifice de la déesse Liberté. On dirait encore une de ces robes étranges de danseuse, où une gaze transparente et sombre laisse entrevoir les splendeurs amorties d'une jupe éclatante, comme sous le noir présent transperce le délicieux passé. Et les étoiles vacillantes d'or et d'argent dont elle est semée représentent ces feux de la fantaisie qui ne s'allument bien que sous le deuil profond de la nuit. Charles Baudelaire, 1857.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière et nous parlons de la nuit. Et évidemment, Charles Baudelaire que nous venons d'entendre déambule, la nuit fait partie des grands noctambules et il inspirera aussi les artistes et les peintres. Mais ce noctambule est-il, ce noctambule urbain, est-il un personnage de toujours
Non.
Non
Non, non. Pourquoi? Parce que pendant... au moins jusqu'à la fin du XVIIe siècle, il y avait très peu de gens qui se promenaient la nuit, notamment en ville. Hein,
je pense, oui, on parle de la ville.
On parle de la ville. Alors progressivement, comme on l'a dit tout à l'heure, les distractions vont se développer. Ce n'est pas pour autant qu'on a le personnage du noctambule tel qu'on l'entend et tel qu'il va, surgir surtout après 1820-1830. Et essentiellement, d'ailleurs, si je parle de la France ou de l'Angleterre, essentiellement dans les capitales. On parle très peu de noctambule à Bergerac, ou par exemple...
Oui, voilà. À Berlin peut-être, mais...
À Berlin peut-être, bon. Et par contre, ce qui existe surtout à partir des années 1750, c'est ce qu'on appelle les coureurs de nuit. Alors les coureurs de nuit, ce sont plutôt des jeunes gens, qui n'ont pas cette vie de noctambule dans des lieux très précis, dans des clubs, dans des tavernes, dans des lieux de prostitution, dans des bals, etc., mais qui sèment un peu la terreur la nuit. Et on se rend compte que c'est un phénomène qui se développe beaucoup et qui est assez marqué par des formes assez nettes, par exemple, d'anticléricalisme. Hein. Donc, on s'attaque, par exemple, on s'attaque au couvent, on s'attaque aux portes des églises, on termine la nuit, par exemple, en allant troubler la première messe du prêtre à 5h ou 5h30 du matin.
Mais ce sont des sauvageons dont vous nous parlez,
comme disait
l'ancien ministre de l'Intérieur.
Mais ces sauvageons n'ont pas la même origine sociale. En général, font partie de la bonne bourgeoisie de la ville.
Hein. C'est le moment où les loups arrivent. Ce sont les loubards, en fait.
Ouais, un peu, oui. Ce sont les loubards dorés. Comme on disait quand j'étais jeune, les blousons dorés ou blousons noirs.
Voilà. Jean-Marie Gallet, vous qui êtes le commissaire de l'exposition, dans cette errance nocturne de certains personnages, il y a évidemment deux grands errants auxquels on pense, les errances surréalistes et puis les errances situationnistes. Et donc, les surréalistes ont beaucoup parlé. Et dans l'exposition, il y a beaucoup de tableau surréaliste.
Absolument, le surréalisme fait de la nuit son terrain de prédilection et c'est d'ailleurs aussi le surréalisme qui nous relie avec Alain Camantous parce que c'est les surréalistes qui vont aller chercher dans l'histoire justement des figures et notamment Rétif de la Bretonne qui écrit ses Nuits de Paris dans les années 1780 qui est un des ouvrages de chevet d'à peu près tous les surréalistes. Brassailles dira se laisser guider tel que le faisait le narrateur des Nuits de Paris de Rétif de la Bretonne.
magnifique photographie de Brassailles en particulier, ces pavés luisants extraordinaires qui est... Voilà.
Oui, absolument. Brassailles se laisse justement guider. C'est l'idée de la flânerie et c'est l'errance nocturne va être un des modes de création, notamment au début du surréalisme. Un des exemples les plus importants dans l'exposition, c'est un tableau de Max Ernst. Ah oui. Qui s'appelle La vision provoquée par l'aspect nocturne de la porte Saint-Denis. Et au lieu de voir ce monument parisien des grands boulevards, ce monument de pierre hein, très très solide figé dans le sol, cette porte se transforme dans l'esprit et dans les yeux nocturnes de Max Ernst en une forêt.
Une forêt pétrifiée.
Une forêt pétrifiée.
Ce qui est extraordinaire parce que le rapport de la forêt et de la nuit et de considérer la ville comme une forêt, c'est faire renaître le magique au cœur de la ville.
Oui, absolument.
Hein, c'est ça, Alain Cabantous.
Ouais. C'est absolument raison, oui.
Et parmi les grands noctambules surréalistes, il y a évidemment aussi Victor Brauner. Victor Brauner qui se promène, qui imagine des chimères. Alors, Victor Brauner a une particularité.
Donc, il y a un tableau fantastique. Parlez du Prince de la Nuit, s'il vous plaît, parce que c'est quand même...
Le Prince de la Nuit, c'est Michaud.
Ah, pardon, vous avez raison. Excusez-moi, autant pour moi.
Le Prince de la Nuit, c'est Henri Michaud, grand, autre, alors, très grand.
On en reparlera, alors pardon. Je vous ai interrompu sur Brauner, honte sur moi.
Brauner, ce qui est intéressant avec Brauner, on revient à l'histoire des légendes et des légendes nocturnes autour des artistes. Brauner, lors d'une bataille, perd un œil. Reçoit une bouteille, sans doute par Dominguez, et perd un œil. Et à partir de ce moment-là, plutôt que de s'en lamenter, il s'en réjouit. Parce qu'il a atteint ce rêve du surréalisme qui est d'avoir un œil tourné vers le monde et l'extérieur, le domaine du visible, mais aussi un œil tourné vers l'intérieur, la nuit intérieure, le domaine de l'invisible.
Je trouve qu'il y avait eu un tableau prophétique sur la même question.
Absolument. Voilà. Il y a d'ailleurs le thème de l'œil fermé. Un œil fermé, un œil ouvert est quelque chose qu'on retrouve extrêmement souvent. Et même déjà, Friedrich conseille, on en revient au romantisme, et le romantisme et le surréalisme renouent les liens
bien
grâce
sûr.
À la nuit. Friedrich déjà disait qu'il fallait fermer un œil et peindre avec un œil seulement vers l'extérieur.
Alors, il y a une autre errance qui est celle qui est la psychogéographie, si je puis dire, donc avec ce fameux thème, hein, ce fameux titre d'ailleurs, Ingirum. Ingirum quoi, vous savez le dire ?
Ingirum imus nocte et consumimur igni.
Voilà.
Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes lentement dévorés par le feu.
Bravo. Donc.
Palindrome latin, donc qui peut se lire dans les deux sens, et qui est aussi le titre d'un film, un film essai de Guy Debord. Nous tournons en rond dans la nuit, nous sommes dévorés par le feu. C'est pour Guy Debord aussi cette idée de cette nuit contemporaine, la nuit qui est une nuit qu'on a annihilée par le travail ou bien par cette lumière qui est déjà finalement un peu ce qu'on appellera plus tard la lumière blanche, hein, la lumière du supermarché, la lumière standardisée pour que la nuit n'existe plus, qu'elle soit totalement bannie, qu'on ne sente plus s'il y a un jour ou une nuit, qu'on soit toujours dans une lumière standard. Et ceux qui vivent la nuit, comme le prince de la nuit de Michaud, sont condamnés
Merci
finalement
d'y revenir.
À être dévorés par le feu. Ils sont... ce prince de la nuit, c'est une petite gouache absolument fascinante.
Incroyable.
Sur un fond noir, sur un papier noir. C'est en 1937, Michaud décide de peindre et il utilise du papier noir et il dit que à partir du moment où il pose une touche de couleur, ce qu'il a devant lui cesse d'être feuille et devient nuit. Et il n'a plus que cet espace pour créer son monde, sa propre nuit.
Vous avez créé votre propre nuit dans cette exposition.
D'une certaine manière.
C'est très personnel, c'est une exposition, c'est ça qui est très touchant, c'est que ce sont des points d'histoire de l'art très importants parce que au fond de la fin du 19e siècle à l'art le plus contemporain, on sent la façon dont les artistes se sont emparés, se sont répondus les uns les autres hein, d'une certaine façon, et en même temps c'est aussi un caprice, grâce à Dieu, dont les associations sont significatives, c'est-à-dire qu'à chaque fois ce sont des éclats poétiques qui naissent des associations de tableaux, vous y avez fait très attention.
J'ai essayé effectivement, il y aurait pu y avoir 1000 expos différentes avec 1000 tableaux différents, tellement le sujet est vaste. Donc effectivement, il y a une part très personnelle, c'est aussi d'une certaine manière ma vision de la nuit, mais une vision qui effectivement nous emmène d'un vertige à l'autre. Cette notion du vertige qui est très liée à la perception dans la nuit, perception qui devient vertigineuse, un vertige des sens puisqu'on y voit moins bien, on doit travailler autrement la perception, un vertige intérieur, on parlait de ces obsessions, de ce monde du surréalisme, du rêve, mais aussi un vertige vertige cosmique. On a moins parlé des artistes contemporains, mais à partir des années 60, la conquête spatiale change totalement l'appréhension qu'on a de la nuit. La nuit devient totalement autre chose. On peut y aller tout d'un coup. On peut aussi, par l'astrophysique, déterminer ce que c'est que ce noir de la nuit. On va toujours la voir plus loin et... Encore une fois, elle échappe toujours à l'image. C'est quelque chose, c'est Merleau-Ponty qui le dit déjà en 45, c'est quelque chose qui nous enveloppe, qui est tout autour de moi, devant, derrière, en moi.
Et qui nous y limite, qui nous y limite devant moi. Également. Alain Cabantous, on est quand même dans une situation où on nous a confisqué la nuit, d'une certaine façon. Le politique nous a confisqué la nuit. Oui, oui. Qu'est-ce qu'une société... avec les possibilités mystiques que la nuit nous offre, les possibilités de contemplation métaphysique, dans laquelle cette échappée nous est enlevée. Est-ce que ça vous rend pessimiste ?
Un peu, et en même temps, il y a une tentative aujourd'hui de réappropriation de la nuit. Autrement dit, simplement d'un point de vue strictement technique, mais ça en dit long, il y a un certain nombre de villes en Europe où il y a, par exemple, dans les conseils municipaux, quelqu'un qui est chargé de réfléchir sur la nuit. Alors, bien entendu, il y a des choses pratiques ou techniques, c'est-à-dire bon, comment gérer les jeunes qui errent la nuit, etc. Comment aussi éviter que la facture d'électricité soit trop lourde. Et aujourd'hui, par exemple en France, il y a une quarantaine de villes, dont beaucoup sont situées à l'ouest, je ne sais pas si à Metz c'est le cas, qui éteignent la lumière urbaine, à partir de 1h ou 2h du matin jusqu'à 6h du matin, de façon à, je dirais, tenter de se réapproprier la nuit, si c'est possible. En tout cas, on a perdu d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal ? Ça, je sais pas à moi de le dire.
Mais vous le pensez, je m'en doute.
Mais je pense qu'effectivement, il y a une... Alors, je ne peux pas dire que... Par exemple, pour les paysans du XVIIe siècle, il y avait une magie de la nuit, parce que...
Est-ce que vous pourriez dire que des pays dans lesquels il y a 6 mois de nuit, comme les pays du Nord, oui. L'imaginaire est plus fort ? Il vous reste une minute pour nous le dire.
Je ne sais pas. Simplement, est-ce que je peux vous poser une question ? Votre titre est effectivement ambigu, mais volontairement ambigu. Est-ce que tous les peintres dont vous parlez peignent la nuit ?
Pendant la nuit ?
Voilà.
Pas tous. Pas tous. Et c'est une ambiguïté assez géniale de se dire que parfois, pour peindre la nuit, il faut le faire de mémoire le jour.
Voilà. Merci de cette belle question, Alain Cabantous, pour conclure notre émission. Merci infiniment à tous les deux. Merci Jean-Marie Gallet.
Merci.
Merci.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose... et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Alain Cabantous. Merci Alain, merci beaucoup d'être venu. Jean-Marie Gallet, commissaire de l'exposition, puisque c'est une émission à l'occasion de l'exposition au Centre Pompidou-Metz, Peindre la nuit, qui a lieu jusqu'au 15 avril. C'était une émission préparée en collaboration avec Seam Boutata, lecture des textes, la belle voix d'Élodie Hubert, prise de son Philippe Mercher, réalisation Franck Lilin. La semaine prochaine, ça va être passionnant et délicat. Nous allons débattre du sujet de la restitution du patrimoine africain, et ceci à l'occasion de la publication au Seuil, aux éditions du Seuil, de ce rapport de Félouine Sarr et Bénédicte Savoie sur la restitution des chefs-d'œuvre de notre patrimoine aux pays africains, sujet qui ébranle les musées du monde entier, on peut le dire. Et chers auditeurs, à 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre, et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.